Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in aria ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
La rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% football italien. Je suis bien évidemment en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume!
Bonjour Yvan, tu changerais pas ton acolyte quand même? Tu me gardes à tes côtés pour cette nouvelle saison de carrière.
Bien évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Guillaume, aujourd'hui on s'intéresse à l'équipe qui a gagné justement la saison dernière, le champion en titre, le Napoli, qui a connu un été, disons que les célébrations ont été denses et incroyables, et je pense qu'on a tous aimé les images qu'on a eues d'un Naples en fête totale, avec un ciel éclairé par les centaines et centaines de feux d'artifice traditionnels à Naples. Par contre, ça n'a pas duré très très longtemps, parce qu'on a vite vu que l'entraîneur allait s'en aller, Luciano Spalletti. On a vite vu que le directeur sportif, aussi mon cher Guillaume, allait s'en aller, et qui a rejoint d'ailleurs la Juve, Giuntoli. Et donc, on s'est dit... deux des architectes de ce Scudetto 2022-2023 ne sont plus là, donc il a fallu les remplacer, notamment sur le banc, où Rudy Garcia est arrivé un peu à la surprise générale, ou semi-surprise, je ne sais pas comment on doit le dire, mais on attendait d'autres entraîneurs, et finalement c'est l'ancien entraîneur de la Roma, notamment en Italie, qui est maintenant sur le banc du Napoli. Guillaume, je te propose de faire comme on a fait pour l'Inter, le podcast précédent. On va regarder ce qui s'est passé sur le marché des transferts cet été, et aussi on va un petit peu analyser les trois premières sorties du Napoli de Rudy Garcia. Guillaume, comme pour l'Inter, je te propose qu'on fasse un petit peu le même principe. On va regarder, alors là il y a beaucoup moins de mouvements, donc ça va aller beaucoup plus vite. Regardez qui est parti et qui est arrivé, qui a remplacé qui, en fait, tout simplement. Donc, on a donc Lozano qui est parti, Irving Lozano qui est parti, qui est retourné au PSV Eindhoven. Et donc, Lindström qui est arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort. Kim, c'est peut-être la très, c'est sans doute la seule très, très grosse perte Kim Min-jae du Napoli, qui est parti au Bayern. On va revenir aussi sur ce départ-là, parce que s'il y avait une clause qui permettait à un club acquéreur de le recruter pour pas très cher, finalement. Et donc, c'est le Brésilien Nathan qui est arrivé en provenance du club brésilien de la Galaxie Red Bull. Et puis, on a Jens Kajust, le Suédois, qui est venu faire le milieu de terrain additionnel, qui remplace le rôle qu'avait Tanguy Ndombele, hein, la saison dernière, pas titulaire, mais en capacité à jouer des matchs, à rentrer dans les moments importants et surtout à jouer quand il faudra faire un petit peu tourner. Tiens, première question, Guillaume. Est-ce que tu es surpris par le faible nombre de mouvements dans cette équipe du Napoli ?
Bah, écoute, en fait, tu l'as dit, ça a été, on va dire, on est passé de l'euphorie très rapidement quand même à... c'est très calme, hein, quand Spalletti est parti, quand Juntoli est parti. Donc voilà, ça a été, il y a un peu la douche froide à Naples. Et c'est vrai que le mercato ensuite, alors, on a eu quand même le feuilleton Osimhen qui nous a tenu en haleine pendant longtemps, où voilà, on ne savait pas si le meilleur buteur de la précédente Serie A allait rester, finalement allait rester. Le feuilleton aussi autour de la prolongation de Kvaratskhelia. Donc, il y a eu plusieurs feuilletons, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu autant de mouvements qu'à l'Inter, autant de mouvements qu'à Milan. Bon, la Juve aussi, c'est quand même été plutôt globalement calme. Mais c'est vrai qu'on sent que De Laurentiis a voulu miser sur la stabilité, sur la continuité. Alors voilà, il y a eu ce changement d'entraîneur qui a été quasiment obligatoire parce que Spalletti voulait partir après une saison qu'il a qualifiée d'éprouvante, même si elle avait été historique. Donc, forcément, il y avait un peu de surprise parce que quand tu es champion en titre, tu as toujours tendance quand même, tu vois, à ajouter 2-3 pièces pour poursuivre, on va dire, ou pour du moins entamer un cycle. Mais c'est vrai que le départ de Spalletti tout de suite a apporté un coup de froid et le mercato, on va dire que ça n'a pas réchauffé la fameuse piazza à Naples. Et voilà, même du côté des supporters, on a vu que il n'y a pas eu d'emballement médiatique, il n'y a pas eu de frisson. Peut-être que le seul frisson du Rouen aurait pu être Gabri Vega à la fin du mercato qui semblait quand même tout proche de débarquer pour finalement aller tristement, j'ai envie de dire, en Arabie Saoudite. Donc oui, ça a été quand même une déception. Mais voilà, tu vois, De Laurentiis te répondra, non mais attendez, on n'est pas revenu à garder Osimhen, on va probablement le prolonger avec une clause libératoire pour l'été prochain. Donc, ça a été un été en contraste total avec la saison qu'on a vécue l'année du titre. Donc, ça a été assez, assez étrange pour le coup. Alors, je ne suis pas directement à Naples sur place, mais même voilà, j'ai des amis qui m'ont dit c'est vite retombé. Il y a eu cette festivité incroyable, tu en as parlé en début de podcast. Sauf qu'ensuite, oui, ça a été c'est un été plutôt tranquille avec le départ de Kim, qui était quasiment aussi pas dans l'obligation de partir, mais le Bayern a fait a levé la clause libératoire, donc Naples ne pouvait pas faire grand chose. Donc je dirais pas que je suis déçu du mercato de Naples, mais je m'attendais quand même à autre chose. Ça c'est certain. Ouais.
En fait, le message que le club va faire passer, c'est que, et c'est pas illogique, hein, c'est qu'ils ont réussi à conserver les meilleurs joueurs. Qu'ils étaient courtisés, enfin, hormis Kim, mais le problème de Kim, c'est que tu l'as fait signer avec une clause qui était très ouverte, parce qu'on savait très bien qu'en cas de belle saison, il y a des clubs qui allaient venir le chercher, parce qu'à un peu plus de 50 millions d'euros, un défenseur de cette qualité-là, ça donne envie à pas mal de clubs, et c'est ce qui s'est passé. Par contre, les autres joueurs comme Kvaratskhelia ou comme Osimhen n'avaient pas ce type de clause à cette hauteur-là qui la rendait très accessible. Donc finalement, ils ont réussi, je ne sais pas, non sans mal ou pas, mais à conserver les meilleurs joueurs. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire qu'explique hein, beaucoup d'entraîneurs ou même de directeurs sportifs de la régénération d'un groupe qui vient de gagner un titre, où il faut voilà, impulser un espèce de vent frais pour voilà, redonner un peu d'enthousiasme et de volonté de se dépasser, de pas tomber dans ce fameux cette fameuse panchapienne en disant bah voilà, maintenant qu'on a le ventre plein, on a un peu moins envie de faire les courses, on a un peu moins envie de faire l'effort pour le copain, on a un peu moins envie sur les jours off d'aller s'entraîner quand même. Ce genre de petits détails en fait qui accumulés permettent d'arriver à une performance extraordinaire comme le Napoli l'a fait la saison dernière. Et c'est vrai que moi j'aurais été très hypé par Gabri Veiga. Hein. Vraiment, c'est un jeune que je suis depuis un petit moment et qui me plaît beaucoup, mais bon, le projet sportif, le projet économique, chacun fait le choix qu'il souhaite, et finalement, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus, très, très logiquement. Ce qui est intéressant aussi, Guillaume, quand même, c'est qu'il y a le site Calcio e Finanza, qui est bon, très réputé en Italie, et qui a sorti ces dernières heures leur étude avec leurs chiffres, en expliquant que le coût de l'équipe, donc qui est une accumulation de masse salariale, amortissement par année de contrat que le Napoli doit payer chaque année, etc. Et ben entre la saison dernière et cette saison, il a un tout petit peu diminué. C'est-à-dire que ce faible mercato entre guillemets en mouvement, hein, je ne parle pas de la qualité, mais en nombre de mouvements, bah, a permis à De Laurentiis d'avoir des coûts très raisonnés et raisonnables pour la saison à venir. Alors, autant le dire tout de suite, hein, si ça ne marche pas, on lui dira tout de suite qu'il aurait fallu plus dépenser. Ça, c'est clair. Qu'il aurait fallu prendre un ou deux risques sur des postes clés où il faut un peu parfois régénérer les choses, mais les gens en tout cas. Mais De Laurentiis se tient à sa politique sportive aussi. On ne peut pas dire, tu vois, on l'a dit dans le précédent podcast, bah, l'Inter qui a vécu au-dessus de ses moyens, bah, est obligé de faire des prêts et pas sûr de pouvoir les rembourser. Bah, De Laurentiis, en tout cas, c'est pas le cas.
Et surtout que ça a marché la saison dernière. On rappelle que l'été 2022, il y a eu ces fameux départs de Mertens, de Koulibaly, de Ospina aussi. Hein, faut pas oublier qu'il était quand même l'un des tolés du vestiaire. Il y avait eu une vague de départs. Et c'est vrai qu'à l'époque, personne n'aurait imaginé le Napoli champion après ces départs-là. L'année d'avant, c'était Milan et personne n'aurait imaginé Milan champion. Donc, c'est certain que De Laurentiis confirme ce modèle-là parce qu'en plus d'être économiquement avantageux, il a démontré sur le terrain que ça fonctionnait. Donc, c'est certain, on ne pouvait pas s'attendre cet été à des dépenses de 100 millions d'euros ou même de 50 avec des joueurs qui arriveraient. Voilà. De Laurentiis poursuit cette politique-là. Alors, il y a une refonte de l'organigramme parce que Giuntoli, qui était quand même l'homme fort, on va dire, du sportif, et Spalletti, qui était l'homme fort du terrain, sont partis. Donc, forcément, il y a une refonte en coulisses et dans l'organigramme. Mais on ne pouvait pas avoir un changement de politique drastique alors que le Napoli l'a fait la semaine dernière et c'est victorieux. Moi, ce qui m'interroge juste, Johan, c'est que, tu vois, on sait que Osimhen devrait prolonger son contrat. Donc on enregistre le 5 septembre et dans les colonnes du Mattino, qui est un quotidien napolitain qui est très renseigné sur Naples évidemment, voilà, on parlait d'un renouvellement de contrat pour Osimhen estimé à peu près à 12 millions d'euros de salaire bonus compris. 12 millions d'euros, c'est, voilà, chacun fera son avis, mais c'est, voilà, pour un club comme Naples, ça reste quand même énorme.
Mais par contre, ce qui m'a étonné juste, Guillaume, c'est que les derniers chiffres qui étaient sortis, c'était pas du tout ça. Donc, les 12 millions, c'est brut pour le club ou parce que ça me semble un peu bizarre qu'il lui file ça en net, hein, très sincèrement.
Écoute, dans le matin, il parlait de 12 millions bonus et primes compris. On a parlé aussi, alors je crois que c'était 10 millions récemment dans le Gazeta, mais on va dire, de ce que j'ai lu, on va dire que ce serait quand même supérieur peut-être aux 10 millions d'euros. Mais voilà, on va dire que dans l'esprit, on va dire qu'on est entre 8 et 12, par exemple. Le problème, c'est, Johan, que l'écart se creuse avec le reste du vestiaire. Et tu vois, Alvaro Kelia, aujourd'hui, il y avait un article dans le même sens qui disait l'actuel salaire ne suffit plus. Je crois qu'il est à 1,5 million. NAB voulait le prolonger à 3 millions. Et forcément, aujourd'hui, quand tu sais que tu as un joueur comme Osimhen, qui est probablement le meilleur joueur du Napoli, hein, qui était le meilleur buteur de la semaine dernière, on l'a dit, toucher un énorme salaire, C'est une exception pour Naples parce qu'il y a un salary cap qui est imposé. On sait que Zielinski, par exemple, il était à 3,5 millions, il me semble, aujourd'hui. Et le Napoli veut baisser son salaire sur les deux prochaines années. Et lui, pour l'instant, n'accepte pas. Il est à 3,5 millions. Il est actuellement à 3,5 millions. Et la proposition de prolongation pour Zielinski, c'est 2,5 millions jusqu'en 2026. Donc forcément, tu vois, ça peut créer aussi un peu de disparité, de déséquilibre dans le vestiaire. Alors, il n'y a pas eu encore ce genre de rumeur-là. C'est juste que quand tu entames une nouvelle politique, si tu commences à faire deux, trois exceptions en fonction du standing de joueur, j'ai pas envie que voilà, ça règle, ça provoque quelques frictions, quelques déséquilibres. Et forcément, je peux comprendre Barash Kilia qui maintenant toque à la porte en disant vous voulez me prolonger à 3 millions. Si Osimhen, on va dire, est à 10 ou 12, j'aimerais gagner un peu plus. Tu vois. Donc, il y a une nouvelle politique, il y a un cap, il y a une stabilité économique qui fonctionne parce que le club est dans le positif. Il n'y a pas eu de folie sur le mercato. Mais attention quand même à pas créer un déséquilibre. On sait qu'Osimhen pourrait quand même partir l'été prochain. Il y a une clause visiblement de 280 millions qui devrait être fixée par Naples. Donc, on sent quand même qu'il y a une espèce de promesse pour l'été prochain en cas d'offre élevée, que ce soit de la Première Ligue, voire de l'Arabie Saoudite. Mais voilà, c'était juste ce point-là qui j'ai pas envie que ça pose problème pour la suite.
Alors Guillaume, sur le plan sportif désormais, le début de saison de cette équipe de Naples, c'est donc 2 victoires et 1 défaite, victoire contre Frosinone 3-1, victoire contre Sassuolo 2-0, et défaite, c'était il y a quelques jours, contre la Lazio 2-1 à domicile au San Paolo, au Diego Armando Maradona plutôt. J'ai un peu de mal à m'y faire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match contre la Lazio, Guillaume?
Alors écoute, visiblement aime jouer Maradona, hein, parce que déjà la dernière, l'équipe de Sarri s'est imposée. Moi, en fait, Johan, la différence que je vois avec l'équipe de Naples de la semaine dernière, c'est quand même plus un problème défensif déjà pour commencer. Où l'année dernière, je voyais une équipe qui se défendait en attaquant, en courant vers l'avant. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de voir une équipe qui défend mal, pas assez rapide, qui connaît beaucoup de difficultés dans les transitions défensives et des pertes de balles qui sont assez surprenantes. Donc, moi, vraiment, ce qui me marque, je ne sais pas toi, c'est vraiment l'aspect défensif, la phase défensive où vraiment je vois une différence entre Spalletti et entre Garcia. C'est quand même deux philosophies de jeu différentes. Je pense que Garcia est aussi conscient qu'il ne peut pas tout changer d'un coup. Et tout à l'heure, on parlait du départ de Kim. Et pour moi, tu vois, sa rapidité, sa leadership, sa capacité à gagner les duels. Pour moi, dans certains aspects du jeu, pour moi, ça me manque.
Alors, je suis globalement d'accord. Que l'équipe soit plus en difficulté défensivement, c'est clair. Sur l'approche, je la trouve pas si différente. Parce qu'on voit des joueurs qui vont vers l'avant, mais il y a une grosse différence, je trouve. C'est que l'équipe est beaucoup plus étirée. C'est-à-dire que les défenseurs accompagnent moins, et c'est peut-être dû au fait, j'en suis pas certain, mais Kim avait une fréquence de pas, une accélération sur les premiers appuis et une accélération au long cours qui permettait de gérer plus facilement la profondeur. Donc tu pouvais te dire que les défenseurs pouvaient monter plus haut leur ligne de pression aussi, parce qu'il pouvait mieux gérer la profondeur. Le problème de Juan Jesus, qui le remplace, c'est qu'il va 3 fois moins vite que Kim, que pour se retourner, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Donc, je pense que ça, je ne sais pas si ça vient de Garcia ou si ça vient des joueurs, mais ils n'ont plus la même sécurité dans la gestion de la profondeur. Et donc, la ligne défensive, ce que j'ai vu contre la Lazio, surtout en deuxième mi-temps, c'est que la ligne défensive n'accompagnait plus les joueurs et qu'on avait une équipe qui était éparpillée sur le terrain et où les distances entre les lignes étaient beaucoup plus importantes. Et parfois, on s'est retrouvé avec 60 mètres entre les lignes. Enfin, une équipe éparpillée sur 60 mètres. Et donc, de manière très intelligente, les joueurs de la Lazio se sont mis entre les lignes et ils avaient le temps de contrôler le ballon, de se retourner, d'accélérer Et en fait, une fois qu'il passait le rideau de la défense, du milieu de terrain, pardon, en se mettant entre les lignes, c'était quasiment du 1 contre 1 en défense pour le Napoli. Tu avais les trois joueurs offensifs de la Lazio qui affrontaient les trois joueurs défensifs qu'il restait du Napoli. Et donc, ça devenait très compliqué à gérer parce que les 1 contre 1 sur vitesse lancée, c'est tout de suite un peu plus difficile à gérer. Je pense que ça peut se travailler évidemment, ça peut s'améliorer. Je connais pas assez Nathan et ses caractéristiques, notamment sur l'aspect gestion de la profondeur, vitesse, explosivité, pour savoir si c'est un simili de Kim ou pas. Mais c'est clair qu'il va falloir s'adapter. Sur la volonté de gérer le ballon, de contrôler le ballon, on y est par rapport à ce qu'on avait vu la saison dernière. Sur la faculté à se créer des occasions, on y est aussi, parce que finalement, contre la Lazio, si on prend les datas, cette saison avec Garcia, ils se sont créés plus d'occasions que sous Spalletti l'année dernière à domicile contre la Lazio, où l'équipe de Spalletti avait déjà perdu, rappelons-le aussi.
Oui.
Mais vraiment, moi, ce qui m'a un peu fait bizarre, c'est cette distance entre les lignes et qui a totalement favorisé en deuxième période les transitions de la Lazio. Parce que quand tu as un passeur hors pair comme Luis Alberto et que tu as des joueurs qui vont vite sur les côtés et que Immobile est quand même encore bon dans la prise de profondeur. Ouais, je sais pas.
Tu sais, le premier but, ça arrive quand même. T'as zéro pression sur Cataldi, qui a le ballon. Après, t'as aucune opposition sur Felipe Anderson. Donc voilà, ça va aussi dans le sens de ce que tu dis. Il y avait vraiment un problème de bloc et d'espace entre les lignes. C'est globalement quand même ce qui était souligné dans tous les quotidiens au lendemain de la défaite, où vraiment, il y avait aussi beaucoup de questionnements sur Nathan. Hein. T'en as rapidement parlé, mais. Quand tu es champion d'Italie, alors voilà, j'ai rien contre Juan Jesus, mais voilà, c'est sûr qu'on est loin du Kim de la semaine dernière. Et Juan Jesus, aujourd'hui, quand tu es champion d'Italie, voilà, tu es aussi en droit de t'attendre peut-être à un joueur d'un autre standing. Surtout, on peut pas. Toi, Juan Jesus, l'année dernière, pouvait dépanner. En numéro 3, il en regarde, c'était pas mal. C'est sûr qu'aujourd'hui, le voir titulaire dans l'équipe champion d'Italie, c'est un peu bizarre.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et puis surtout, est-ce que c'est pas la One Wonder Season de Juan Jesus l'année dernière? Parce qu'au final, quand il a joué, il faut le dire, il a été très très bon.
Oui, bien sûr.
Mais est-ce que c'est pas dans sa carrière? Est-ce que ce qui est la normalité, c'est pas les autres saisons? Et la normalité, ce qui s'est passé la saison dernière? Et donc, dans ce cas-là, espérer qu'il fasse exactement la même chose cette saison vis-à-vis de son historique des performances sur les saisons précédentes. Je sais pas, c'est une prise de risque quand même côté Napoli, je trouve, tu vois.
Donc, surtout que Nathan, tu vois, est toujours pas quand même. Toi, ce matin, la Gazzetta parlait d'un fantôme. Alors voilà, c'est évidemment un peu sévère, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu. Donc, on ne sait pas ce qu'il vaut. On n'a pas beaucoup de retours dessus. Alors voilà, il y aura ces deux semaines qui de trêve, mais c'est certain qu'on est aussi curieux de le voir parce que il est censé être le successeur de Kim. Et quand tu vois les problèmes défensifs du Napoli, forcément, voilà, tu es assez impatient de voir ce qu'il peut apporter sur le terrain. Donc, il y a quand même pas mal de choses à corriger dans ce Napoli-là. Alors, il n'y a pas d'alarmisme et de catastrophe, mais c'est certain que voilà, il y a aussi une équipe, ça faisait longtemps, Johan, qui n'a pas été critiqué, où il y a quand même pas mal de choses à corriger. Donc, il faut aussi vivre, on le sait, hein, on a souvent parlé, c'est la saison où Wagner, ça va très vite. Il faudrait pas que les mauvais résultats s'enchaînent il y a une espèce de mini crise qui s'installe parce qu'à Naples ça peut vraiment aller vite, ça peut prendre des ampleurs assez énormes. Donc pour l'instant ça va, il y a eu cette défaite là qui peut servir de mise en garde. Il faudra corriger ça à la reprise. J'ai pas le calendrier sous les yeux, mais il y a quand même une réaction qui est attendue par les supporters et des joueurs aussi, parce que tu peux pas, voilà, après trois journées, voilà, Frosinone avait mal commencé avec ce penalty assez rapide et finalement il s'était repris derrière. Contre Sassuolo, ça avait été un peu plus simple. C'est certain que là, ce coup de frein, encore une fois, face à la Lazio, bon, avant la trêve, c'est pas l'idéal. Et voilà, on va espérer que ça puisse permettre à Garcia de corriger ce qui va pas pour l'instant.
Alors, le calendrier, tout de suite après la trêve, il y a déplacement au Genoa, ensuite déplacement à Braga, déplacement à Bologne. Il y a trois déplacements successifs.
Trois déplacements.
Ouais. Ensuite, réception de l'Udinese, déplacement à Lecce avant de recevoir le Real, la Fiorentina, et d'aller à Vérone affronter le Verona. Donc, bon, il y a moyen de se refaire aussi d'ici là. L'intégration de Nathan, ça va devenir un vrai sujet, parce que je ne vois pas comment Naples peut faire une saison entière avec Juan Jesus, titulaire. Enfin, ils peuvent le faire, hein, mais je ne suis pas certain que... une équipe championne d'Italie puisse se présenter avec Juan Jesus titulaire toute la saison. Même si c'est un peu trop facile de tout mettre sur le dos de Juan Jesus, hein, d'ailleurs sur le match de la Lazio, parce qu'Oliveira n'a pas été bon, par exemple, alors que pour le coup, lui aussi avait fait une bonne saison la saison dernière. Donc on verra, il y a pas mal d'ajustements à faire. Rappelons que les périodes de trêve internationale, ce n'est pas les meilleures périodes pour travailler, pour les entraîneurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en sélection. Donc c'est pas forcément là que tu peux vraiment travailler collectivement. Là, tu vas peut-être un peu plus travailler individuellement, et ça fera peut-être du bien à Nathan. Mais pour le moment, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'alarmisme particulier à avoir sur. Parce que moi, si tu regardes la première mi-temps et tu dis que Naples s'impose 1-0, pour moi, c'est tout à fait crédible en fait, parce que la première mi-temps contre la Lazio, elle est bonne. C'est en deuxième mi-temps où il y a eu des trucs. En plus, en deuxième mi-temps. Bon, quand tu voyais que la Lazio se crée des occasions, finit par marquer le deuxième but, t'as un peu cette, ils ont eu un peu cette précipitation à vouloir tout de suite, très vite, égaliser, etc. Et en fait, il y a eu des erreurs techniques qui sont très inhabituelles, notamment Rachmani, je trouve qu'il fait vraiment pas un bon début de saison sur le plan technique, pas forcément sur le plan défensif, encore que, mais vraiment sur le plan technique, je trouve qu'il rate beaucoup, beaucoup de choses. Zambo Anguissa aussi a eu des phases où il a un peu pas très propre techniquement. Voilà, je cherchais un mot pour le dire. Bref, c'est pas le seul joueur, hein. Ils ont tous été un peu en deuxième mi-temps un peu à l'urgence de vouloir gagner ce match, alors qu'il aurait peut-être fallu tranquillement reprendre les bases de ce que cette équipe sait faire, et les occasions, il les aurait peut-être eues. Donc, mais bon, pour le moment, il n'y a pas d'urgence particulière. Rappelons que quand même sur le groupe de Ligue des Champions, Guillaume, donc on a Braga, le Real et l'Union Berlin. C'est pas un groupe facile. Bon, déjà parce que tu as le Real et que le Real en Ligue des Champions, c'est jamais facile. L'Union Berlin, c'est une équipe qui joue pas au foot. Donc ça va être très, très, très compliqué. C'est, voilà, tu vois des barbelés avec les Miradors, bah c'est pareil. c'est un peu comme ça. Et par contre, en transition.
Ça sera quand même le retour de Bonucci.
Il y aura bon. Ouais, exactement.
Bonucci en Italie.
Il sera bien. Il sera bien sifflé, je pense.
je pense aussi. Ouais.
Mais c'est pas une équipe qui est facile à manœuvrer. Il y a beaucoup de clubs allemands et même des clubs importants qui sont cassés les dents la saison dernière sur l'Union Berlin. Donc, il faudra voir un peu le match-up. Est pas évident pour le Napoli. Mais écoute. On attend de voir encore un peu plus, parce que là, sur les trois premières journées, c'est quand même difficile de dégager une tendance sur tous les clubs, hein, pas simplement sur le Napoli. Mais un mercato qui a été assez calme, avec des bouleversements sur le directeur sportif et l'entraîneur. Bon, tu sens que ça peut vite. J'allais dire dégénérer, c'est exagéré, mais ça peut vite bouger, quoi. Tu sens que les festivités du Scudetto sont loin, en fait.
Et d'ailleurs, je pense que tu as vu aussi le tweet publié par le Napoli aujourd'hui sur les rumeurs. Alors, tu vois, bon, évidemment que c'est un tweet, voilà, qui parle, on va dire, de conneries sur, je cite, hein, de conneries sur l'avenir de Kvaratskhelia. Mais attention aussi, tu vois, à pas polluer ton environnement avec ce genre de rumeurs, de tweets, de réactions. On sait, voilà, il y a le contrat d'Osimhen qui n'a toujours pas été signé. Visiblement, De Laurentiis prend son temps. On en parle encore dans la presse aujourd'hui. Kvaratskhelia qui toque à la porte. On en parle encore dans la presse aujourd'hui. Zielinski offre au rabais pour les deux prochaines saisons. Visiblement, elle ne veut pas signer. Il n'y a aucun rendez-vous prévu sur la Gazeta pour ratifier ce contrat, fin de contrat l'année prochaine. Attention, pas polluer l'actualité avec ça. Donc, tu vois, il y a aussi, du moment que le club réagit officiellement à ça, avec un tweet, c'est quand même assez rare d'avoir un club tweeter purement sur des rumeurs de Mercato en parlant littéralement de conneries. Toi, attention vraiment à que ça parte pas en cacahuète parce que...
Et Laurentiis avait été très calme l'année dernière, il faudrait que ça continue. Quoi.
Exactement. Moi, j'ai toujours Johan en tête et je pense que les supporters de Naples aussi, ce fameux Empoli-Napoli quand Naples gagne 2-0 l'année où il y a un champion avant de perdre 3-2. De Laurentiis est en vacances et sur son yacht tranquillement, il voit ça, il rentre, il va au rassemblement, il fait des espèces de entre joueurs, il appelle ça, alors je crois que c'est des tas psychologiques pour parler, pour se dire les choses. Voilà, pour l'instant il n'y a rien de tout ça, évidemment, tout ça d'accord, mais voilà, attention à ne pas polluer l'atmosphère avec Osimhen, la prolongation, Dvara, Zielinski, les tweets, voilà, le fil est et fin, Johan. Donc voilà, faudrait pas qu'on perde le champion italien en cours de route. Il y a tout le temps de se reprendre, mais on sait qu'à Naples comme à Rome, parfois ça peut aller très vite. Et la Roma, on n'a pas encore parlé, on en parlera plus tard. Voilà, à Rome, c'est un peu, c'est pas la même ambiance pour l'instant. Il y a pas mal de, on va dire, de casino qu'on a en Italie de colère, voilà, exactement, de bazar après le début de la Roma, mais voilà, c'est des villes qui sont très très émotives, donc attention à Naples de pas tomber là-dedans, ce serait un peu bête.
Voilà pour cet épisode spécial Napoli, analyse du mercato des trois premières journées. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify d'ailleurs également. On espère d'ailleurs que le contenu vous plaît toujours. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux un peu partout où vous voulez d'ailleurs. Le bon vieux mail, ça marche aussi pour recommander des épisodes de podcast. Et puis nous, on se retrouve très rapidement, Guillaume, pour un nouvel épisode. On continue ces formats courts qui vous plaisent, ça nous permet d'aller un petit peu plus en profondeur sur chaque club en fonction des différentes actualités, des différents résultats. À très vite. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.